Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi RFI, il est 3h en temps universel, 5h ici à Paris.
Léa Boutin-Rivière.
Toutes les limites, toutes les lois, toutes les lignes rouges ont été franchies. C'est le doigt accusateur pointé hier par Hassan Nasrallah contre Israël après 2 attaques d'ampleur contre le Hezbollah. 37 morts, 3000 blessés dans les rangs du mouvement libanais, faisant ressurgir plus que jamais les craintes d'un embrasement régional. Pas question de financer une nouvelle prolongation de la transition. La communauté internationale hausse le ton face au Soudan du Sud après que le gouvernement a annoncé reporter les élections de 2 ans. Également dans ce journal, l'exécutif bientôt dévoilé en France et au Brésil. Le réseau social X refait mystérieusement surface avant de disparaître tout aussi rapidement. Un coup sans précédent contre le Hezbollah. Dans un discours télévisé hier, le chef de la milice chiite Hassan Nasrallah est revenu sur les explosions meurtrières des appareils de communication du groupe, les beepers et les talkie-walkies utilisés par les membres du gouvernement. Cette attaque a fait 37 morts et près de 3000 blessés. Un coup sévère, a encore admis le leader du Hezbollah, qui a menacé Israël d'une riposte terrible, car pour Hassan Nasrallah, l'État hébreu a franchi les lignes rouges. Écoutez.
Des milliers de beepers ont été pris pour cible par l'ennemi israélien et ont explosé simultanément. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, toutes les lois et toutes les lignes rouges. Il ne s'est soucié de rien, ni moralement, ni humainement, ni légalement.
Des menaces verbales non dissimulées donc, alors qu'en parallèle, les attaques se sont poursuivies. Depuis hier matin, le Hezbollah a revendiqué au moins 17 frappes contre des positions militaires israéliennes. Mais au-delà de ces opérations, la riposte promise par la milice chiite a peu de chances de se concrétiser. Tant que l'Iran ne hausse pas le ton, le mouvement libanais ne peut pas vraiment se permettre de conflits ouverts, explique le chercheur Karim Emil Bitar.
Il est quand même cornérisé, coincé, parce que les Iraniens ne semblent pas disposés à aller à une guerre ouverte contre Israël. Ils n'ont pas riposté à l'assassinat sur leur propre territoire du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Et le Hezbollah lui-même, s'il devait attaquer Israël, cela serait très mal perçu par de vastes franges de la population libanaise qui estiment que le Liban n'est plus en état de supporter de nouvelles guerres. Son économie est exsangue. L'État est en train de s'effondrer jour après jour. Donc le Hezbollah devra trouver un moyen de riposter sans que cette riposte ne donne un prétexte à M. Netanyahou pour lancer une vaste offensive d'envergure et impliquer les États-Unis à sa rescousse, comme le souhaitent certains membres les plus extrêmes de son cabinet de guerre.
Propos recueillis par Muriel Paradon avec Vincent Souriot. Israël, de son côté, a poursuivi ses frappes contre les infrastructures du Hezbollah et affirme avoir visé hier 100 de lanceurs de roquettes. Pendant ce temps, les efforts diplomatiques se poursuivent, mais semblent plus enlisés que jamais, malgré l'optimisme prudent d'une partie de la communauté internationale. Hier, le président américain Joe Biden a ainsi estimé qu'un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël était faisable, tandis que son homologue français, Emmanuel Macron, a assuré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'une voie diplomatique était possible. Alors possible, oui, mais quand? D'après des responsables américains interrogés par le Wall Street Journal, il n'y aura probablement pas de cessez-le-feu, et notamment de cessez-le-feu avec le Hamas, avant la fin du mandat de Joe Biden, fin janvier 2025. Et la communauté internationale inquiète aussi de la situation au Soudan du Sud, inquiète et même agacée. Dans un communiqué publié cette semaine, plusieurs chancelleries occidentales qualifient de déception, d'échec même, la décision de reporter les élections générales dans le pays. Le scrutin devait avoir lieu le 22 décembre, mais le gouvernement de transition a annoncé il y a quelques jours qu'il ne serait finalement organisé qu'en 2026. Une réunion a été tenue mardi pour entériner ce report, mais Gaël Lalex, la plupart des diplomates présents, ont préféré s'abstenir.
La paix ne peut être garantie que par des élections légitimes, explique Guy Warrington, ambassadeur de la Grande-Bretagne au Soudan du Sud. Selon lui, le report des élections n'est pas dû au manque de soutien de la communauté internationale ni de ressources, c'est le manque de volonté politique des dirigeants sud-soudanais qui en est la cause. Quelle est donc leur priorité, interroge Michael Adler, ambassadeur des États-Unis. Il dénonce une prolongation qui donne la priorité aux privilèges de l'élite plutôt qu'au bien-être du peuple sud-soudanais. Dans un communiqué conjoint, l'Union européenne européenne, le Canada, l'Allemagne et la France, notamment, exhortent le gouvernement de transition à créer dès maintenant les conditions d'élections transparentes en 2024, à commencer par l'inclusion des groupes armés qui n'ont toujours pas signé l'accord de paix. Les négociations en cours à Nairobi piétinent depuis des mois. Ces chancelleries préviennent, elles ne paieront pas pour les 24 mois supplémentaires de transition. Nous attendons que les autorités présentent un plan de financement crédible et transparent, conclut leur communiqué. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
70 morts au moins, 200 blessés, toujours pas de bilan officiel au Mali. Après les attaques terroristes de mardi à Bamako, mais ce sont les chiffres annoncés par la société civile et des sources sécuritaires. L'état-major malien, de son côté, ne reconnaît que quelques pertes en vies humaines. Une cérémonie a eu lieu hier dans la capitale, à huis clos. C'est la première fois depuis 2016 que Bamako est visée par une telle opération. La capitale, habituellement épargnée, malgré les attaques terroristes quasi quotidiennes dans les autres régions du pays. En France, plus que quelques heures, tout au plus quelques jours d'attente avant de connaître le prochain gouvernement. Le Premier ministre Michel Barnier a promis que son exécutif serait présenté avant dimanche. La liste de personnalités choisies, 38 membres, dont 16 ministres de plein exercice, doit encore faire l'objet de vérifications déontologiques avant d'être dévoilée. Cette équipe devrait faire la part belle aux élus macronistes et républicains, dont Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR, qui devrait prendre le portefeuille de l'intérieur. En revanche, Laurent Wauquiez, président, lui, des députés LR, a indiqué hier renoncer à entrer au gouvernement. Et toujours en France, le procès des viols de Mazan se poursuit avec une nouvelle étape, l'interrogatoire depuis hier des 50 co-accusés de Dominique Pellicot. Cet homme accusé d'avoir drogué sa femme pendant 10 ans et d'avoir recruté en ligne des hommes pour la violer. Le premier des co-accusés a reconnu les faits de viol, mais le second, un septuagénaire, conteste cette qualification. Laura Martel, il a donc fallu diffuser des vidéos de sa venue au domicile des Pellicot pour tenter d'en comprendre les circonstances.
Alors, qui reprend la parole ? Propose timidement le président, rompant le silence de malaise et d'écœurement qui s'est abattu sur la salle. Durant la diffusion des trois films, la plupart des accusés ont gardé la tête baissée. Dès les premières secondes, Gisèle Pellicot, elle, a détourné le regard. À l'écran, on l'a vu allongée sur le dos en porte-jartelle, bras ballants, bouche ouverte, alors qu'un homme nu manipule son corps complètement inerte pendant que Dominique Pellicot filme. Les images sont terribles, le son l'est tout autant. Tout au long d'une interminable vidéo, on entend distinctement Gisèle Pellicot ronfler entre les râles et chuchotements des deux hommes. À la barre, Jacques, un ancien pompier de 73 ans qui n'a de cesse de clamer, même après le visionnage, que durant toute sa vie, il a grandement respecté les femmes. Lui a scruté avec attention les images, il en reconnaît les attouchements, pour lesquels il s'est confondu en excuses avant la diffusion, mais persiste à nier le viol. « J'attends encore de me voir pénétrer ce sexe », lance-t-il d'un air de défi à l'avocat général sans considération pour la victime. « Moi, j'étais aux premières loges, si je puis dire », ironise depuis le box Dominique Pellicot, « et il y a bien eu pénétration ».
Précision signée Laura Martel. Les audiences se poursuivront aujourd'hui avec la prise de parole d'un autre co-accusé. Le procès doit durer jusqu'au 20 décembre. Vous écoutez RFI, il est minuit 8 à Rio de Janeiro, où le réseau social X rétropédale. Le site détenu par le milliardaire américain Elon Musk était de nouveau inaccessible hier dans le pays. Une victoire pour la justice brésilienne qui a banni le site fin août. Pourtant, pendant quelques heures, Martin Bernard, X était de retour sur les téléphones brésiliens.
Les amateurs brésiliens du réseau social X ont eu une sacrée surprise cette semaine. Bien qu'étant officiellement banni et débranché des circuits officiels, l'ancien Twitter est redevenu accessible pendant quelques heures. La nouvelle s'est très vite répandue mercredi parmi les internautes, mais elle a aussi déclenché la colère de la justice brésilienne. La Cour suprême a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle provocation d'Elon Musk, le propriétaire de X, soupçonné de sympathie envers l'extrême droite et l'ancien président Jair Bolsonaro. D'où la menace d'une amende de près $1 million par jour si les règles n'étaient pas respectées. L'ancien Twitter, qui s'est déjà quitté d'une première amende de plus de $5 million, a pourtant affirmé qu'il s'agissait d'une manœuvre involontaire et que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais ce couac met en évidence la pression exercée sur X, qui serait en train de contacter un grand cabinet d'avocats brésilien pour régulariser sa situation au Brésil et renouer le contact avec ses 22 millions d'abonnés. Martin Bernard, São Paulo, RFI.
RFI, il est 5h10 ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Merci d'être fidèle à la Radio du Monde.